Lorsque j'ai lu ces textes qui sont proposés pour le dimanche, comme je le fais chaque fois qu'on prépare un culte, je ne les ai pas trouvés très inspirants. Ézéchiel parle de la rétribution directe, l'évangile de deux guérisons archi-connues, et Paul de la nécessité de l'offrande. Est-ce bien là quelque chose dont notre communauté, petite aujourd'hui, mais toute notre Église, a besoin? Quelle parole notre Dieu a-t-il pour notre Église en cette veille d'élection qui réveille le côté obscur de nos forces intérieures? Faut-il, avec Ézéchiel, rappeler l'importance de son comportement social et de sa foi pour éviter la mort et avoir la vie? En ce temps de choix électoral, ce serait peut-être vital. Faut-il appuyer sur la question de l'offrande pour aider le pouvoir d'achat de l'Église, alors que les dépenses pour les vacances à venir sont tellement plus importantes à valider? Où faut-il souligner comment Jésus est capable de guérir une femme et une fillette tout en gardant le sourire? Vous avez remarqué, dans la diatribe d'Ézéchiel, que des gens critiquent durement le prophète en accusant Dieu de ne pas être juste dans sa justice, de dépasser les bornes. Dieu ne fait pas les choses comme elles devraient se faire, selon le regard porté par ceux qui subissent au quotidien l'injustice politique, sociale ou religieuse. Et puisque Dieu ne fait pas justice, quand on le lui demande, eh bien, laissons-le tomber. Et Ézéchiel insiste pour dire que ce n'est pas vraiment le bon choix. Ce n'est pas la bonne clé ni la bonne porte à prendre. Seule la mise en œuvre de l'amour du prochain permettra la vie du peuple. Dans la lettre de Paul, il est question de l'offrande pour soutenir les communautés en profonde misère. Que celui qui dispose d'argent sache donner abondamment, tant qu'il en a, afin que, s'il en manque un jour, il reçoive à son tour de la part des autres qui peuvent à ce moment-là l'aider. Mais on est loin de ce type de fonctionnement dans nos églises, même protestantes. Chacun donne d'abord de son superflu, ce qui ne va pas trop manquer à son aisance quotidienne, ou mensuelle, ou année, ou annuelle. Et oser parler de donner davantage, c'est provoquer des refus scandalisés d'un côté, ou le silence à travers l'abandon direct de l'Église. Et enfin, l'Évangile selon Marc présente Jésus et les disciples qui débarquent de retour du pays de Gadara. Et ils sont immédiatement entourés par une foule de gens. Dès le moment où ils sortent de la barque au bord de l'eau, nous dit le texte. L'arrivée d'une star à la croisette, vous connaissez, c'est récent. Vous voyez les foules, ou bien d'une autre star à l'Olympia, ou encore de ces joueurs extraordinaires au Stade de France. Vous voyez là, les foules sont là. Cela provoque la même cohue. On se bouscule autour de la vedette. Et le service d'ordre que tentent d'assurer les disciples ne peut rien y faire. Comment Jésus supporte-t-il cela? Tout le monde doit lui demander en même temps une guérison, ou ceci, ou cela, vouloir le toucher. Waouh, j'ai touché la star. Espérer un regard, croiser son regard, une parole de réconfort, une petite histoire sur le royaume. L'évangile selon Marc ne dit rien à ce sujet. On ne sait pas ce qui se passe. On sait que la foule est là, que Jésus est bloqué avec ses disciples au bord de l'eau, pas loin. Mais Marc souligne deux interventions qui vont entrer dans l'histoire, puisque nous les avons. Deux personnages vont s'imposer au milieu des centaines ou des milliers d'autres. Et elles vont faire réagir Jésus bien plus que toute la foule. Et c'est le fait que Jésus trouve le moyen d'entendre, de rencontrer, de se laisser déranger par ces deux personnes-là qui m'ont fait reprendre la question à ce sujet. Il y a d'abord l'arrivée du chef de la synagogue locale. Vu son importance, il arrive à se frayer un passage jusqu'à Jésus. Ça serait l'arrivée du maire, on lui laisse peu à peu la place pour venir ici devant, si c'était rempli à ras-bord dans le temple. Et pour souligner sa dépendance envers Jésus, il se met à genoux devant lui. Et il interpelle plusieurs fois Jésus au sujet de sa petite fille dans le coma. Viens la guérir, allez, bouge-toi un peu. L'évangile ne donne aucune parole, aucune réponse de Jésus. Mais quelque chose a dû se passer pour que le chef se relève. Et Jésus se met à le suivre, lentement, car la foule ne s'écarte pas pour autant. Ils doivent jouer des coudes pour avancer. C'est un parcours du combattant, un chemin contre la résistance de la foule. Ni Jaïros, ni Jésus ne sont respectés par cette foule, cette cohue aimantée par Jésus, qui doit continuer à sourire aux uns, parler à d'autres, bénir ceux-ci, caresser tel enfant. Quelle distance doivent-ils parcourir depuis le bord de la mer de Galilée jusqu'à la maison de Jaïros? Combien de temps leur faudra-t-il? Marc raconte, comme un passant, qu'il y a un énième attouchement de la tunique de Jésus par une inconnue de la foule, une malade incurable. Et ce toucher-là provoque en Jésus une secousse sismique, pour le moins, comme une décharge électrique. Une force lui échappe. Une source d'énergie est happée par quelqu'un de la foule. Pourquoi cet inconnu et pas les autres, qui déjà le touchaient depuis sa sortie de la barque, qui s'agrippaient à lui? Qu'est-ce qui fait que la puissance dégagée par Jésus pour cet inconnu l'est à ce point affecté, lui, Jésus? Au point qu'il s'arrête, au point qu'il interroge fortement. Et c'est sa première parole audible de notre passage, provoquant l'incompréhension des disciples. Non mais, qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Tout le monde te touche. Qui t'a touché? Mais tout le monde. Bah, regarde. Jaïrus qui attend impatiemment de pouvoir encore avancer. Or, la femme concernée tombe elle aussi à genoux devant Jésus, comme Jaïrus. Mais le verbe est légèrement différent, indiquant qu'elle vient se mettre à genoux pour une raison un peu différente. Ce n'est pas tout à fait la même génuflexion qui se passe. Elle parle et dit la vérité. Son mal incurable, son espérance, la guérison à l'instant. Et Jésus prononce une deuxième parole pour cette femme. Il lui confirme sa guérison grâce à sa foi et la renvoie dans la paix. Et cette puissance qu'il vient de donner à cette femme avec bonheur n'affaiblit pas Jésus, bien au contraire, car il se met à réagir enfin. Il réagit d'ailleurs immédiatement à l'annonce de la mort de la fillette de Jaïrus, qu'il a dû entendre dans le brouhaha. Comment a-t-il fait? Il a des oreilles qui traînent. Et c'est comme si un barrage avait sauté dès cet instant. Dès ce moment-là, Jésus prend toutes les choses en main. Il parle au chef de la synagogue et l'encourage. Et puis ensuite, il s'adresse à la foule et il interdit à la foule et aux autres disciples, en dehors de Pierre, Jacques et Jean, d'aller plus loin. Il leur dit de rester là pendant que lui continue avec Jaïrus. Ses serviteurs qui étaient venus l'avertir et ses trois disciples. Et arrivé à la maison, il fait sortir toutes les pompes funèbres qui sont là. Et il garde donc encore moins de monde avec lui. Le père, la mère, les trois disciples. Plus la fille, morte ou endormie. Et lui-même, faites le compte. Là, il dit à cette fille, il ordonne de se lever. Ce qu'il fait, tout simplement. Et puis, il met un point final à tout ce parcours en exigeant la non-diffusion sur les réseaux sociaux de ce miracle. Et qu'on s'occupe enfin correctement de cette jeune fille. Frères et sœurs, arrivons-nous à entendre le Seigneur au milieu de ces foules qui crient dans tous les sens, parfois des cris de haine ou des cris d'exclusion, d'autres cris de liberté et de sécurité, avec tous ces petits mots qui viennent réveiller en nous telle crainte ou tel idéal qui pourrait enfin se réaliser grâce à tel ou tel personnage sauveur idéal du moment. Jaïrus est un homme de pouvoir et il utilise les normes reconnues pour faire plier Jésus à son besoin, à son attente pour sa fillette. Il utilise les règles, il se met à genoux, il le supplie et Jésus avance. Tant bien que mal. Ça marche, le pouvoir, mais moyennement, contre la foule. Mais alors une femme, sans nom, impure, cachée, ouvre le canal de la grâce et de la vitalité, réveillant Jésus. Elle transgresse toutes les normes en vigueur. Cette femme, elle risque sa peau pour toucher, si possible, le vêtement de Jésus. Et Jésus peut alors intervenir avec puissance. Il peut alors prendre la parole en vérité et offrir des voies de guérison. Oui, cela libère Jésus ce n'est pas la foule et ce n'est pas l'homme de pouvoir, mais celle qui est rejetée, celle qui est méprisée, celle qui est exclue, la pécheresse, qui va bouger Jésus. Qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire dans notre parcours et dans nos choix, aussi bien en Église qu'en société? Que le Seigneur, par son Esprit, nous guide ces prochains jours. Amen.